Le faiseur de monde présente le nouveau cycle de Yom, livre premier, Angebashan, épisode 1. C'est l'aube sur Angebashan. Les premières lueurs du soleil cachent les étoiles qui font rêver la moitié de l'humanité. Les habitants d'Angebashan n'ont pas la tête dans les étoiles. Leur souhait est plutôt de garder les pieds bien sur terre. C'est le cas d'Andresh Varatunan, qui pensait, jusque-là, y avoir réussi. Pourtant, ce jour, le ciel va lui tomber sur la tête. Son café vite avalé, il sort de son appartement pour rejoindre son boulot. Et là, devant la porte, une petite enveloppe jaune. Le choc est tel qu'il reste de nombreuses secondes, comme tétanisé, n'osant même pas se baisser pour la prendre. Il finit par s'y résoudre, sachant exactement ce qu'elle représente. Non pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce que sa simple présence à ses pieds signifie. Ils l'ont retrouvé. Ici, dans la tour Novgorod du quartier Europa, alors qu'il avait déménagé, sans forcément penser à leur échapper. Il s'était cru libéré, délivré, après la visite d'Alexei. Mais non. Visiblement, le Maïdenar comptait toujours sur lui. Il n'en avait pas fini avec son passé. C'était une catastrophe, car il y a 3 jours, il venait de violer la règle de base des Benguintai, sans même penser aux conséquences. 7 ans après son arrivée à Angebashan, enfin, à Angebashan, sur l'île, pas dans la ville, 3 ans seulement, après réellement son emménagement en ville, il avait tout simplement oublié ce qu'il était. Un Benguintai, un espion, comme on dit dans le mélange de langage à moitié indonésien, à moitié malaisien. C'est même dans la joie qu'il avait violé cette règle de sécurité de base, comme si devenir citoyen, vraiment citoyen, d'Angebashan avait lavé son passé. Et c'est vrai que c'est souvent le cas pour de nombreuses personnes qui vivent ici. Angebashan est une ville-état, née de l'éclatement de ce qui fut appelé à un moment les nations, déchirée par les guerres territoriales, ethniques, religieuses, économiques. Un tout petit bouddhisme avec une ville resserrée, faite de grands buildings. Bizarrement, contrairement aux autres grandes villes du sud-est asiatique, pas juste au bord de la mer, plutôt à l'intérieur de l'isthme, ce qui l'avait sauvé. La ville d'Angebashan était déjà, à l'époque, un repère de gens plus ou moins fréquentables. La haute finance y faisait ses magouilles, quelques mafias s'y étaient bien implantées. On y avait déjà des activités informatiques poussées, certaines, dirons-nous, du bon côté, d'autres, plutôt du côté obscur. La montée des eaux, due au réchauffement climatique, en avait fait un centre relativement important, car la plupart des autres grandes villes, qui tenaient le haut du pavé, jusque-là, s'étaient aperçues qu'elles n'étaient pas suffisamment haut sur le pavé pour résister à la montée des eaux. Angebashan, qui n'était pas au bord de la mer, mais environ 3 mètres au-dessus de son niveau et à plusieurs kilomètres de la côte, était dès lors devenu un centre économique, certes peu fréquentable, mais bien connu. Le gigantesque tremblement de terre, qui avait secoué toute l'Asie il y a une 40aine d'années, avait eu 2 effets majeurs. Le premier, l'isthme s'était effondré. Angebashan n'était plus une ville-état sur un isthme, mais une ville au milieu d'une île de quelques kilomètres de long et quelques kilomètres de large, en forme de patate, et un bout de terre resté sur le continent. Le tout séparé par un bras de mer de plus d'une 10aine de kilomètres, ce qui en faisait réellement une île. Ce qui restait de la cité-état sur le continent, appelé Siantva, quelque chose comme « qui brille » dans une vieille langue indienne, était devenue une gigantesque décharge, où la ville exportait ses déchets et gérait les déchets de ce qui restait de civilisation tout autour. Avant de représenter ce qui brillait dans les déchets, ce qui pouvait représenter un trésor pour les pauvres, c'était d'abord le continent qui brillait aux yeux des malheureux qui étaient restés sur l'île, jusqu'à ce que les choses se mettent en place et que l'île finisse elle-même par briller aux yeux de tous les miséreux de la région. Siantva n'était plus une terre, ça n'était plus qu'une gigantesque décharge à ciel ouvert, alors que la ville, elle, brillait de 1000 feux. Le deuxième effet du grand tremblement de terre ne fut pas immédiat, mais radical. La base de l'île, ébranlée, s'était effondrée sous le poids des immeubles. Pas toute l'île, juste la ville. Comme une cuvette qui s'était enfoncée progressivement de plusieurs mètres jusqu'à inonder la totalité des immeubles. La montée des eaux, qui jusque-là avait épargné Angebashan, transformait chaque immeuble en une île, au milieu d'un lac, lui-même au milieu d'une île pas inondée, mais beaucoup plus humide qu'autrefois. Alors que les jardins, c'est comme cela qu'on appelle le reste de l'île, se trouvent suffisamment au-dessus du niveau de la mer, la ville est à 4,50 m en dessous. Le rez-de-chaussée, l'ex-rez-de-chaussée, le niveau ville, les rues et tout ce qu'il pouvait y avoir en dessous, les boutiques, les garages, dans les sous-sols, tout cela est sous l'eau. Le premier étage aussi, inondé. Le deuxième étage, que l'on appelle maintenant niveau moins 3, est un petit peu en dessous de l'eau, et tous les 3-4 ans, au moment des grosses moussons, quand l'eau peut monter jusqu'à 2 mètres par rapport au niveau habituel, il se trouve inondé. L'ex-troisième étage est devenu le moins 2. Lui aussi est parfois inondé, beaucoup plus rarement, au moment des tempêtes, pour les énormes moussons, tous les 10-15 ans. Il arrive alors que le niveau de l'eau monte de plus de 4,50 m. Il faut monter à ce qui était autrefois le quatrième étage, que l'on appelle maintenant le moins 1, pour être sûr d'avoir les pieds au sec. Quoique, enfin, en 30 ans, ce n'est arrivé que deux fois, et encore, pas inondé, juste les pieds dans l'eau, à fleur d'eau ou 10-15 cm. Au-dessus, ce qui était autrefois le cinquième étage est devenu maintenant ce que l'on appelle le niveau plateforme. C'est à cet endroit-là que l'on a construit les passerelles entre les immeubles. Il n'y a pas d'appartements, uniquement des boutiques et les passages que l'on a creusés à travers les appartements ou de grands aplats, là où certaines tours se sont effondrées. Car oui, bien sûr, tout ce qui n'avait pas 3 étages a été balayé. Il y avait vaguement de petits immeubles ou de vieux quartiers ou des centres plus ou moins taudis. Tout cela a été balayé. Et certaines tours, à cause de l'eau et du tremblement de terre, ébranlées dans leurs fondations, se sont effondrées. L'adaptation de la ville, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est faite par étapes, mais très rapidement, en quelques années. D'abord, il y eut effectivement ces tours qui se sont effondrées. Un petit peu par hasard, les deux principales se sont effondrées au niveau de ce qui était autrefois le cinquième étage. En poussant les remblais, cela permettait d'avoir une sorte de plateforme et de gagner un peu sur l'eau environnante. Au fameux cinquième étage, dans tous les immeubles, on avait détruit des appartements pour en faire des allées qui permettaient de les traverser, généralement en forme de croix, pas loin du milieu, là où les appartements n'avaient pas de lumière, des appartements qui ne coûtaient pas très cher. On avait juste besoin de contourner le cœur de béton. Puis on avait construit des passerelles, allant d'un immeuble à l'autre, justement au niveau de ces allées qui débouchaient sur chaque face de l'immeuble. Les tours qui s'étaient effondrées avaient été proprement arasées au niveau du cinquième étage, créant ainsi de grandes places en plein air, sur lesquelles, assez rapidement, les propriétaires avaient reconstruit, non pas une tour, mais des petites maisons. On avait fait de même avec ce qu'il restait des immeubles de 6 à 7 étages, dont les quelques niveaux supérieurs paraissaient moins importants que le fait d'avoir une place dégagée au niveau plateforme. On avait ensuite, dans chaque immeuble, creusé des escaliers à travers les appartements jusqu'à ce qui était autrefois le deuxième étage, devenu le niveau moins 3, pour mettre des embarcadères. Car très rapidement, un petit peu comme la Venise qui avait existé en Europe avant d'être engloutie, tout un réseau de transport par bateau s'était mis en place. L'économie s'était adaptée. Les propriétaires des immeubles n'avaient pas les moyens de les consolider, de les entretenir, pour éviter qu'ils ne s'effondrent à cause de l'attaque de l'eau. Ce sont donc des mafias qui avaient récupéré la ville, se l'étaient partagée, immeuble par immeuble. La ville était donc divisée en quartiers, tenus par un clan, chaque quartier comportant une ou plusieurs tours, en fonction de la richesse et de la puissance du clan. Ainsi, Andrzej Varatunan habitait aujourd'hui dans la tour Novgorod, du quartier Europa, quartier tenu par le clan Nowogórski, et ces 3 éléments étaient intimement liés. C'est le clan Nowogórski qui possédait toutes les tours du quartier Europa, qui touchait les loyers, qui raquettait gentiment toutes les boutiques qui ne pouvaient de toute façon s'implanter qu'avec leur autorisation. De même, de toute façon, pour les appartements. On payait un loyer, mais il fallait payer pour avoir un appartement, et on devait avoir l'autorisation du clan. Cela permettait au clan d'avoir l'argent qu'il fallait pour payer les travaux, et surtout la main d'œuvre. Car on ne payait pas seulement en argent, on payait aussi en service. Ainsi, quiconque vivait dans un quartier devait des heures de travail au clan. Un petit peu comme dans l'ex-système médiéval européen, où les paysans devaient une partie de leur récolte et les corvées. On n'en appartenait pas pour autant au clan. On pouvait être libre, par exemple, de trouver du travail ailleurs. Ailleurs, dans un autre quartier, où il fallait l'acceptation du clan pour être embauché à cet endroit et où une partie de ce que l'on gagnait lui remontait. Une autre partie servant à payer le loyer au clan qui, d'une certaine manière, nous hébergeait. Autant dire que si le boulot était miséreux, il ne restait plus grand-chose pour vivre. Les clans vivaient ainsi en bonne intelligence. Oh, de temps en temps, il y avait bien quelques guerres pour des petites choses. On chipotait, et ça n'allait jamais très loin. Une seule fois, peu après le début, un clan s'était montré particulièrement agressif et avait tenté de bousculer un petit peu l'ordre établi en faisant la guerre à un quartier à côté pour s'étendre et récupérer une tour. Le nom de ce clan est maintenant interdit. Le clan n'existe plus. En quelques semaines, ce fut un véritable massacre, l'intégralité des autres clans l'ayant éradiqué. C'était trop dangereux, ce genre de choses. L'ordre devait régner, on pouvait se disputer certains éléments, et certainement pas les quartiers ou les tours. La violence aurait été trop dangereuse. Il suffisait d'une bombe pour faire basculer une tour dans l'eau, et potentiellement la faire basculer sur une autre. Beaucoup trop dangereux. L'ordre régnait à Angebashan. On y était tranquille. Il n'y avait pas de violence, en tout cas pas de violence au grand jour. Oh, de temps en temps, pour de sales histoires, du moins on s'en doutait, il arrivait qu'on retrouve un cadavre flottant entre deux tours. Mais ça n'allait pas plus loin. Non, l'ordre régnait. La misère aussi, avec une forte hiérarchie. Plus on arrivait haut dans une tour, plus cela signifiait qu'on était riche et puissant. La hauteur des tours ne signifiait pas grand-chose elle-même, car la plupart du temps, les clans s'étaient installés dans les tours qu'ils habitaient déjà, avec forcément des niveaux différents. Mais l'ascension sociale, c'était clairement une ascension vers les étages supérieurs, les miséreux habitant sous le niveau plateforme. Au moins trois, les esclaves, qui n'avaient rien, car de toute façon tous les 3-4 ans, ils seraient obligés de déménager et tout serait envahi par l'eau. Au moins deux, ceux qui commençaient à prendre pied, sans mauvais jeu de mots. Puis, le moins un, la masse des travailleurs, pas encore tout à fait acceptés comme citoyens, mais qui étaient sur la bonne voie. Ensuite, on passait au premier étage, et là, on était citoyen. Le loyer était tellement plus important qu'au moins un, que souvent, passer du moins un au premier étage vous appauvrissait. Vous n'étiez pas devenu plus riche, simplement, vous étiez à un endroit où on vous respectait un peu plus, et vous aviez la certitude de ne jamais avoir les pieds dans l'eau, même pas tous les 10 ou 15 ans. Il est vrai que souvent, le premier étage, c'était pour les visiteurs ou les touristes, qui eux avaient les moyens de payer très cher, bien plus que ce que le loyer aurait dû être sur cette fameuse échelle de l'ascension sociale. Car oui, il y avait des visiteurs et des touristes. Une ville, ainsi, des immeubles plantés au milieu de l'eau, c'était folklorique, ça intéressait certains. Il y régnait le calme, les touristes, personne n'y touchait jamais. On pouvait sortir la nuit, il ne risquait rien de nous arriver. Alors, un petit peu de tourisme, et puis les affaires, tous les liens que les clans avaient avec le monde entier, plus ou moins camouflés. Bref, un bon endroit pour vivre. Un endroit où Andresh Varatunan avait cru devenir autre chose qu'un simple Mengintai. Peut-être même un jour échapper à la misère. La misère, certains s'en échappent. Mais un Mengintai ne s'échappe jamais de son organisation.